France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
À quoi a servi cet été ukrainien de Donald Trump? Beaucoup d'agitation à la fin d'une impasse. C'est avec Tetiana Ogarkova depuis Kiev que nous essaierons de trouver une porte de sortie. Un ambassadeur ne devrait pas dire ça. Ça commence très mal entre l'ambassadeur américain et nous. Mais quelle est la suite? Ce sera le rôle de la rédaction internationale tous les soirs de remettre le monde à l'endroit. Le reportage est en Syrie. Une Syrie à sec.
Nous nous disions, Dieu enverra la pluie et remplira le barrage. Ça ira. Mais regardez ce qui est arrivé. Nous sommes au mois d'août et nous ne pouvons déjà plus travailler.
Un reportage signé Manon Chaplin à découvrir autour de 18h43 dans Sous les radars avec un nouveau dans la bande du 18-20, c'est Guillaume Audat qui nous parlera d'un néo-nazi en transition de genre, mais est-il sincère? Et puis Cyril Sauvageau nous fera écouter la musique des glaciers quand ils fondent. Le monde est vaste et on n'a pas une heure.
Well, we'll see. We're going to see if Putin and Zelensky will be working together, you know, that's like oil and vinegar, a little bit.
Voilà, Donald Trump, évidemment, c'était vendredi dernier. On va voir si Poutine et Zelensky, dit-il, vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ces deux-là ne s'entendent pas très bien pour des raisons évidentes, dit-il. Bonsoir, Tetiana Ogarkova.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez pour l'ONG Ukraine Crisis Media Center. Vous êtes journaliste et universitaire. Et comme souvent, Tetiana, vous revenez du front, vous y déposez du matériel très régulièrement. Une voiture, récemment des voitures. D'abord cette question, comment vont les soldats, Tetiana, mais comment vont aussi les Ukrainiens au moment où on se parle ?
Voilà, les soldats ukrainiens vont assez mal, je dirais, puisque la situation est évidemment très grave sur toute la ligne du front. Nous venons de revenir de Zaporijjia la semaine dernière. Mm-hmm. On était là le 15, le 16 août, donc justement au moment d'Alaska. Pourquoi c'est grave? Parce que tout simplement c'est difficile et les troupes russes continuent de pousser d'une manière assez intense. Mais ce que nous avons entendu par des soldats, c'est que ils nous ont dit, c'est notre dernière ligne de défense, nous ne pouvons plus reculer, parce que derrière nous, c'est ce qui est important. Mmh. Évidemment, tout ce qui est devant nous, c'est important, mais ce qui est derrière nous, c'est encore plus important. Donc, c'est le moment c'est la dernière ligne de défense, en quelque sorte. Donc, c'était ça le message de soldats. Après, les Ukrainiens, évidemment, il y avait quelques petits espoirs durant cet été, mais franchement, tous les doutes sont confirmés. Actuellement, on est à une semaine déjà de Alaska et Washington. Et donc, nous voyons qu'une fois une impasse est là, parce que, justement, la cause première de cette guerre, Vladimir Poutine et son régime, il refuse de terminer ça par un deal.
Tetiana Ogarkova, si on a choisi cet extrait de Trump, c'est parce qu'il a effectivement été au centre du jeu tout l'été. Il a aussi, quand même, exprimé sa frustration, y compris récemment, parce que rien ne bouge. Est-ce que vous diriez que le bilan de ces semaines, d'abord, c'est un échec de Donald Trump ?
Oui, cette approche adoptée par Donald Trump, cette approche qui cherche à apaiser l'agresseur en lui proposant une certaine récompense, c'est-à-dire un deal, des bénéfices économiques, ou bien des deals ou autre chose, donc ne pas imposer des sanctions, etc. Ça ne marche pas, parce que c'est le moment de s'interroger, est-ce que l'approche de Trump, est-ce qu'elle est correcte, dans le sens que est-ce qu'elle marche? Pour l'instant, force est de constater que cette approche qui sort par exemple l'agresseur Vladimir Poutine et son régime de l'isolement diplomatique, que ça ne marche pas, parce que la Russie, pour l'instant, ils n'ont pas changé leur position. C'est-à-dire, ils veulent tout, ils n'acceptent même pas de parler avec Zelensky, parce qu'on a déjà entendu de la bouche de Lavrov que Zelensky est légitime, etc. Donc, toutes les thèses de la propagande. Donc, pour l'instant, cette approche que de se montrer accueillant face à un régime de ce type, ça ne marche pas.
Vous avez dit, il y a un instant, Tetiana Ogarkova, qui a eu un moment d'optimisme quand même en Ukraine. Est-ce que le verre à moitié plein pourrait aussi être la prise de conscience quand même américaine qu'on ne peut pas compter sur Vladimir Poutine, qui mène Trump, y compris Trump, par le bout du nez? Est-ce que c'est quand même une forme d'espoir, ça, de se dire qu'il y a cette prise de conscience?
Oui, on peut espérer une certaine prise de conscience parce que malgré tous les cercles vicieux qu'on est en train d'accomplir, ça ressemble à des cercles vicieux parce que ça ressemble, voilà. Donc à chaque fois, Trump dit que voilà, que là maintenant, nous allons ouvrir une voie à la Russie. Après, il promet des sanctions, il promet la pression, il fait l'envoi des bateaux nucléaires. C'était ça il y a quelques semaines. Après, voilà, ça ressemble à une réaction très forte. Après, rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de véritable pression. Et après, Trump fait semblant que voilà, rien ne s'est passé, et après nous revenons à encore un cercle vicieux de ce type. Donc voilà, c'est très volatile cette approche-là, et on ne voit pas comment est-ce que, et quand est-ce qu'il y aura le moment critique où justement cette prise de conscience sera cohérente et définitive.
Parce que vous êtes coincé avec ce personnage-là, Tetiana Ogarkova, parce que c'est Trump qui a la clé des sanctions économiques contre Poutine, si ça a encore un sens, c'est Trump qui a la clé de l'autorisation des missiles qui pourraient frapper en profondeur dans le territoire russe, c'est lui qui décide ou pas de plier bagages, vous ne pouvez pas faire sans lui de toute façon, ou est-ce que vous vous dites, mais on pourrait faire sans lui si l'Europe voulait bien monter d'un cran?
Bah, écoutez, je crois que nous, en Ukraine, et vous, en Europe, on est en train de tirer des leçons de ce qu'était en fait la dépendance ukrainienne, mais tout aussi bien européenne, de cette approche américaine. Donc, je crois que les premiers à prendre conscience du danger, en fait, d'être dépendant d'un pays, qu'il était policier du monde, etc., que leader de monde libre, peu importe, mais c'est très dangereux de se mettre dans la situation où on importe la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a certains matériels qui est remplaçable, comme par exemple les systèmes Patriot, mais aujourd'hui, dans la presse ukrainienne, nous lisons les informations sur deux types de missiles de longue portée, 1000 km et 3000 km, donc Flamingo et cet autre missile aussi, qui sont en train de se produire en Ukraine avec l'intelligence ukrainienne, avec peut-être les investissements européens. Et donc, je crois que les états-majors en Europe, tout aussi bien, sont en train de prendre conscience qu'il est extrêmement dangereux, même au sein de l'OTAN, de se fier à un partenaire aussi puissant et crédible qu'il puisse paraître aujourd'hui, parce que demain, il peut adopter justement cette position-là que de vouloir se retirer et de vouloir être au milieu du conflit. Voilà.
On est d'accord qu'il n'y aura pas de sommet Poutine-Zelensky, si ?
Je pense que non, parce que pour la seule raison que Vladimir Poutine, il n'accepte pas cette idée. Il pense que Zelensky était légitime. Il a déjà mis cette thèse dans la bouche de Lavrov, et parce que pour lui, ça serait de perdre le visage que d'accepter de serrer les mains avec Zelensky et puis de parler d'égal à égal. Poutine, il peut imaginer parler avec Trump, mais pas avec Zelensky, et peut-être même pas avec des leaders européens.
Mais quand Zelensky dit, lui, aujourd'hui même d'ailleurs, que le seul moyen de faire avancer les choses efficacement, effectivement, c'est de se voir. Est-ce qu'il le dit parce qu'il a aussi besoin d'être le bon élève, y compris vis-à-vis de Donald Trump d'ailleurs ? Est-ce que c'est un message qu'il envoie à la Russie ? Ça veut dire quoi ?
Je crois que Volodymyr Zelensky est dans la situation où il devrait faire semblant, faire toute cette diplomatie qui pourrait plaire à Trump. Nous avons bien retenu, il a bien retenu la leçon avec le costume, par exemple. Et la deuxième fois à Washington, il s'est présenté avec son costume, conseillé par des leaders européens. On fait semblant qu'on faisait, comme dans la famille où les choses vont pas bien, on fait quand même semblant que les choses vont bien. Et donc, c'est un peu ça. Mais il peut pas dire autrement. Mais autre chose, ce que Zelensky fait, ce que l'Ukraine fait, tout en démontrant la gratitude des États-Unis et puis la dépendance de l'Ukraine, nous produisons nos propres armements d'après les statistiques officielles. Je crois que ça va remonter à 50% de tous les armements utilisés sur la ligne de front qui sont produits en Ukraine. C'est-à-dire, il y a des progrès faits, il y a des leçons. Et donc, Zelensky a fait cette déclaration il y a deux jours, je crois. Il a dit qu'avant, on demandait l'autorisation aux États-Unis de frapper d'un profondeur de la Russie. Aujourd'hui, nous avons des moyens de le faire et nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit aux États-Unis.
Lui, ce qu'il veut Trump, c'est un accord de paix qui effectivement semble hors de portée. Est-ce qu'il faut à minima essayer de jouer le cessez-le-feu ou pas ?
Un cessez-le-feu, l'Ukraine a accepté. Zelensky l'a dit, je crois, c'était le 7 mars 2025. C'est-à-dire que dans cette situation extrêmement grave et difficile, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et définitif dans l'air, terre et le mer. Et donc c'est ça. Donc ça reste ouvert, cette proposition-là. Mais le problème, aujourd'hui, on est au mois d'août, qu'au mois de mars, pareil, il n'y a pas de volonté du côté russe que d'arrêter la guerre. Ils veulent continuer la guerre tout en prétendant de négocier. C'est ça qu'ils veulent. veulent, et c'est ça qui va se passer jusqu'au moment où il y aura la pression plus forte sur Poutine.
Mais vous l'avez dit, parce que vous l'avez vu de vos yeux, les Russes avancent, les Russes progressent, les Russes n'arrêtent pas de taper, surtout, comment on fait pour essayer d'inverser le temps, c'est-à-dire faire en sorte que le temps soit en faveur de l'Ukraine et pas en faveur de la Russie. Pour l'instant, est-ce que c'est encore possible, ça ?
Il n'y a pas une solution magique, mais il faut se renforcer, il faut créer des partenariats de coproduction des armements, comme hier c'était annoncé avec Canada, il y a des coproductions pour les armements, il y a des contrats avec la France, il y a même les États-Unis qui nous achètent des drones, donc il n'y a pas de solution magique, il faut se renforcer pour être en mesure un jour mettre Poutine au dos, c'est-à-dire le mettre dans la prise de conscience que sa guerre, elle n'a pas de sens. Tant qu'ils avancent, ils ne le comprennent pas. Mais il faut aussi dire, et c'était une chose qui était d'ailleurs citée par Emmanuel Macron récemment, que depuis 1000 jours, les Russes ont avancé, bon, ils ont pris 1% du territoire ukrainien. C'est-à-dire que toutes les avancées, tous les succès, c'est grâce à ce blitzkrieg, en fait, de février-mars 2022. Donc après, évidemment, ils avancent, on a des pertes, eux aussi, ils subissent des grosses pertes, mais il s'agit de l'impasse des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que c'est difficile, mais ce n'est pas du tout une victoire stratégique pour Poutine.
Vous dites, et vous citez d'ailleurs l'un des soldats que vous avez rencontré dans ce que vous avez écrit le plus récemment, qui dit ici ou nulle part, de toute façon on se battra. Vous nous disiez tout à l'heure que la dernière ligne droite pour l'Europe comme pour l'Ukraine c'était maintenant, mais on a vu l'Europe foncer vers Washington après Anchorage parce que la moitié de l'Europe a eu le sentiment que les choses étaient en train de la dépasser intégralement. On voit combien c'est compliqué, on entend ce que vous dites, Tatiana Ogakova, sur les armements qui viennent d'Europe, mais on a un peu le sentiment quand même que on ne sait pas quel est le sursaut européen qu'on peut attendre pour vous aider aujourd'hui, et même quelle est à la fois la marge de manœuvre, et si même il y a une marge de manœuvre désormais.
Il y a toujours une marge de manœuvre, puisque évidemment il faut être prudent, parce que perdre les États-Unis comme partenaire, comme allié, on ne parle même pas de l'allié comme partenaire, ça serait grave pour l'Europe que pour l'Ukraine, évidemment. Donc c'est pour ça toute cette attitude très prudente des leaders européens qui sont évidemment se dépêchés à Washington pour aider Zelensky lors de ce rendez-vous. Évidemment, tout le monde comprend qu'il faut essayer, voilà, de toute force de garder les États-Unis de notre côté, parce que sinon ça sera très grave, mais à la fois je n'ai pas de doute qu'il y a des think tanks, il y a des états-majors, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont tout à fait conscients de ce qui est en train de se passer, et que voilà, phénomène Trump, donc la réalité de Trump, elle est avec nous pour quelques années à venir, et nous devons faire avec, et voilà, mettons tous les moyens de notre côté, diplomatique, économique, mais aussi faisons aussi notre propre jeu, c'est-à-dire que rien n'est facile. Il n'est jamais facile de devenir une puissance militaire, voilà, de cette situation où la sécurité n'était pas une priorité. Mais rien n'est difficile non plus quand on regarde les budgets européens qui étaient annoncés par Ursula von der Leyen récemment. Si je ne me trompe pas, 800 milliards pour la défense européenne, c'est énorme. Et donc, si on compare les budgets russes avec tous les efforts qu'ils ont, la Russie est extrêmement faible aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment affaiblie par cette guerre de grande échelle depuis 3 ans et demi. Donc, c'est le moment de serrer les dents et puis de continuer.
Si je vous dis à vous, l'Ukrainienne, Tatiana Ogarkova, si je vous dis qu'il faudra bien un moment discuter territoire, et il faudra bien un moment peut-être en laisser derrière pour une paix, ou en tout cas pour un cessez-le-feu qui serait durable, est-ce que vous répondez, il n'en est pas question ? Est-ce que la question ne se pose même pas ?
Tout dépend du moment et tout dépend des conditions, en fait. Évidemment, il y a la loi internationale, il y a la constitution ukrainienne qui interdit tout échange de territoires. Mais justement, le problème pour l'instant, donc quand Zelensky a dit le 7 mars qu'on était d'accord pour cesser le feu, ça voulait dire qu'un cessez-le-feu, ça veut dire que nous, on ne va pas tirer sur les territoires que la Russie occupe, c'est-à-dire moins de 20% pour l'Ukraine. Donc après, voilà, donc tout va dépendre du moment. Il faut surtout pas que l'agresseur soit récompensé pour son agression.
Mais j'entends quand même une inflexion, Tatiana, dans votre discours, qui n'était pas le même il y a encore quelques semaines quand on s'est parlé au téléphone, une inflexion sur, oui, on est peut-être prêt à lâcher une partie du territoire si c'est le prix à payer.
Je vous dirai une chose, c'est pas une différence de la position, c'est une différence de vision à court, à long et à moyen terme. C'est-à-dire, à long terme, on est convaincu que la justice doit être de retour. C'est-à-dire que c'est la question des moyens. Comment est-ce qu'on récupère les territoires? Est-ce qu'on peut les récupérer par des voies militaires aujourd'hui? La réponse est non. Mm-hmm. Peut-on les récupérer par des voies politiques et diplomatiques? Plus tard, la justice, comme c'était pour des pays baltes, elle peut revenir après. C'est-à-dire que si on parle dans l'immédiat, pour faire le cessez-le-feu, pour arrêter la guerre, pour en laisser Poutine n'est pas éternel non plus, son régime n'est pas éternel non plus, on peut faire exploser son régime de l'intérieur. D'ailleurs, c'est ça qu'il compte aussi faire avec l'Ukraine. Donc voilà, on peut régler ce problème et revenir au droit international. Demain, après-demain, donc c'est-à-dire dans une décennie, mais pas d'une manière militaire aujourd'hui. Et au fond, mais ça ne veut pas dire qu'on trahit le principe, c'est que en fait nous devons tous, l'Ukraine, la France, l'Europe, les États-Unis, respecter en fait les normes qui sont le fondement de notre vie des pays démocratiques.
Et au fond, vous êtes en train de répondre à la question que je vous posais précédemment sur comment on fait pour que le temps soit en faveur de l'Ukraine. Et au fond, c'est ça votre réponse. Pour que le temps soit en faveur de l'Ukraine, c'est accepter de laisser quelques territoires derrière nous, quitte à les récupérer après et les récupérer diplomatiquement et politiquement. C'est ça que j'entends.
Oui, ça pourrait être une solution, mais le problème avec cette solution-là, que Poutine, elle n'est pas d'accord avec ça. Parce que Poutine, il ne veut pas ces 20% de territoire ukrainien. Il veut que l'Ukraine, en tant que pays indépendant, en tant qu'État, n'existe plus. Qu'il soit assujetti d'une manière ou d'une autre à politique économique à la Russie. Donc, voilà, ce sont un peu des spéculations. On ne va pas s'acheter la paix en laissant les territoires à Poutine. C'est ça le problème. Même si on laisse derrière quelques territoires, Slovensk, Kramatorsk, ça n'apportera pas la paix. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, il veut tout ou rien. Il veut la restauration de l'URSS et Lavrov s'est présenté à Alaska. On se souvient très bien avec un pull, avec cette inscription de l'Union soviétique. Voilà.
Tetiana Ogarkova, on est toujours ravis de vous avoir dans Un jour dans le monde. Vous serez la bienvenue encore plus tard. Aucun doute qu'on en reparlera. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite. Et tous les soirs, c'est la rédaction internationale qui remet le monde à l'endroit. Ce soir, Louise Baudet, un ambassadeur américain qui se fait taper sur les doigts.
Ouais, il accuse la France de ne pas agir contre l'antisémitisme. Coup de chaud diplomatique, tout sauf passager. Je vous en dis plus dans 3 minutes.
Et ce sera juste après Little Sims et Free. C'est le choix de Djoubaka, le programmateur musical d'Un jour dans le monde. I think that love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of slowing progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day. Little Little Sims est Free sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
L'ambassadeur des États-Unis à Paris accuse donc la France de ne pas agir contre l'antisémitisme, cette fièvre diplomatique. Louise Baudet ne va pas retomber tout de suite, mais pourquoi ?
Alors, ce personnage haut en couleur s'appelle Charles Kushner, père de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, marié à sa fille aînée Ivanka. Il est un intime du président américain, richissime magnat de l'immobilier, condamné pour malversation il y a 20 ans, avant d'être gracié par Donald Trump, sans expérience diplomatique, un atout par les temps qui courent. Charles Kushner occupe depuis quelques semaines le poste prestigieux d'ambassadeur des États-Unis en France. Discret jusqu'à cette lettre incendiaire qui fustige l'inaction de la France contre l'antisémitisme. Lettre qui lui vaut d'être convoquée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Alors cette convocation n'est pas une première, c'est arrivé à deux reprises sous la présidence Obama, sur fond d'écoute par la NSA d'appels téléphoniques, notamment de présidents français. Mais l'événement est rare et surtout il s'inscrit dans un cycle de tensions qui va crescendo, qui implique au premier chef Israël et qui va durer au moins jusqu'à l'ouverture de la prochaine Assemblée Générale de l'ONU.
Et alors Charles Kushner, Louise, reprend un argumentaire développé il y a quelques jours par Benjamin Netanyahou.
Oui, sa lettre fustige des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes de reconnaissance d'un État palestinien qui encourage les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France. À peu de choses près ce qu'a écrit Benjamin Netanyahou mardi dernier. Le Premier ministre israélien a mené une charge violente contre Emmanuel Macron, accusé d'alimenter le feu antisémite. Le président français qui s'est résolu fin juillet à reconnaître l'État de Palestine et qui s'est fixé un cap, celui de l'Assemblée générale de l'ONU à New York dans un mois, conférence sur la solution à deux États prévue le 22 septembre.
Donc l'échéance se rapproche et la pression du gouvernement israélien s'accentue.
Oui, pendant que sur le terrain, la destruction de Gaza et l'amplification de la colonisation en Cisjordanie rendent peu à peu caduque cette reconnaissance de l'État de Palestine, eh bien, sur le plan diplomatique, Benjamin Netanyahou décrit comme anti-juive toute critique de sa politique. Façon d'intimider Paris et surtout les autres capitales qui seraient tentées de suivre le mouvement, ce qui est déjà le cas d'une dizaine de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal. Alors, la virulence du Premier ministre israélien valide paradoxalement l'initiative d'Emmanuel Macron. Elle prouve qu'il s'est passé quelque chose fin juillet. Le président français avait longuement hésité par crainte de ne pas être suivi, de prêcher dans le désert de l'été. Il espère maintenant convaincre d'autres pays comme le Japon ou la Nouvelle-Zélande.
Mais ce que montre la lettre de Charles Kushner, Louise, et c'est pas une surprise, c'est le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël.
Oui, les commentaires de l'ambassadeur sont officiellement soutenus par le département d'État américain ce soir. Et il complète un tableau déjà bien connu. Dernier exemple en date, le silence éloquent de Washington alors que l'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza, ou encore l'offensive lancée par Donald Trump contre la Cour pénale internationale et ses mandats d'arrêt qui visent Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, tous deux accusés d'utiliser la famine comme arme de guerre. Bref, si Emmanuel Macron attend quoi que ce soit de la grand-messe onusienne de ce mois de septembre, le voilà prévenu, aucun changement de cap ne viendra de la Maison-Blanche.
Louise Baudet, à demain. Le reportage d'Un jour dans le monde est en Syrie ce soir, qui fait face à son été le plus sec depuis plus de 60 ans. La faute à un hiver sans précipitation, aux effets du changement climatique qui s'installe, mais aussi dans le sud du pays, il y a les incursions israéliennes qui s'emparent des ressources en eau. Résultat, les pertes en blé sont massives, environ 75% des terres cultivables sont touchées, alerte l'ONU, ce qui menace la sécurité alimentaire depuis plus de 16 millions de personnes. C'est dans la région de Dera, l'une des plus agricoles du pays que nous allons, les barrages sont à sec, les agriculteurs inquiets. Et le reste, c'est Manon Chaplin qui raconte.
Le barrage d'Ipta ne ressemble plus qu'à un cratère calciné. Une coulée de sable, des crevasses, des fissures et tout autour des champs brûlés. Il n'y a dans ce village plus grand bâtiment qui ne soit pas abandonné. Avec les années, les agriculteurs sont tous partis, dit Yaza, 19 ans, berger comme son père et son grand-père avant lui.
Cette année, c'est pire que tout. Nous n'avons plus assez d'eau et plus assez de plantes pour nourrir nos moutons.
Alors, pour abreuver ses bêtes, Yaza fait appel à des camions-citernes, des litres d'eau qui lui sont ici livrés. Coût total 450 $ par mois, c'est cher et pas suffisant, regrette-t-il. Son troupeau a été décimé, il a perdu la moitié de ses moutons.
Il meurt, un à un.
À ses côtés, Aref, agriculteur, il cultive des tomates, des concombres, des pommes de terre. Cette année, assure-t-il, il a perdu la moitié de ses terres.
D'ici, jusque-là, ce sont nos terres. Lorsque nous avons planté, il y avait encore un peu d'eau dans le barrage. La sécheresse, nous y pensions déjà. Nous nous disions, Dieu enverra la pluie et remplira le barrage, ça ira. Mais regardez ce qui est arrivé. Nous sommes au mois d'août et nous ne pouvons déjà plus travailler. D'habitude, nous travaillons sans problème jusqu'au mois de décembre.
Dans la région de Dera, tout le monde vous le dira, il n'y a en 60 ans jamais eu de pénurie d'eau d'une telle ampleur. La faute au manque de précipitations cet hiver, la faute aux incursions des forces israéliennes. Au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad, ces dernières se sont déployées dans la zone tampon des militaires. Militarisés du Golan sont depuis accusés de prendre possession des ressources stratégiques en eau et des hectares de champs.
Ils ont pris le contrôle de barrages stratégiques, des barrages qui étaient des sources d'eau pour tout le monde dans la région. Depuis, il n'y a plus d'eau pour personne.
Ici, plus qu'ailleurs encore, les effets du stress hydrique sont visibles. La région est l'une des plus agricoles du pays, surnommée le grenier de la Syrie. Abou Aïssam empile une à une ses cagettes de pommes de terre. De ses hectares de champs, il ne cultive cette année que la moitié.
Les oliviers, les pêchers, les pruniers, tous les arbres fruitiers sont asséchés cette année.
Alors, pour trouver de l'eau, il faut creuser la terre, construire des puits, mais là aussi...
Même sous la terre, l'eau est rare, et nous avons besoin d'essence pour faire fonctionner les pompes. Les autorités ne nous apportent aucune aide.
Cette sécheresse est aggravée par les effets du changement climatique, ceux des politiques menées par le clan Assad. Avant sa chute, le régime a soigneusement pillé les puits et conduits d'eau des quartiers et villes révolutionnaires, compliquant aujourd'hui l'irrigation des terres, mais aussi celle des villes, jusqu'à la capitale, Damas.
Le puits, c'est quand on ouvre, il y a un trou.
Devant un trou béant, Kinan Al-Koutsi, directeur de l'association Al-Siraj, constate les dégâts. Il faut sortir des centaines de mètres de câbles endommagés, de nouveau tout raccorder.
Le numéro estimé de 500 puits ne fonctionne pas.
Avec son association, ce franco-syrien s'est donné pour mission de réhabiliter les 22 puits de la banlieue sud de Damas. Dans le bureau du centre de pompage, la plupart des panneaux électriques qui y sont reliés sont encore éteints.
Si t'as tout ça allumé, t'as pas des problèmes du lot à Damas.
Coût du projet, $150,000.
L'État ne nous donne pas le fonds. Si tu veux faire la reconstruction d'un pays, la première chose c'est de faire reconstruction du système du lot.
Tout à coup, la pluie.
C'est fou.
Au milieu de la chaleur de l'été, quelques 48 degrés, tout le monde se rue dehors. Pas question, dit Kinan, de perdre une occasion de se rafraîchir.
Manon Chaplin pour le reportage. À très vite. La suite avec Guillaume Audat qui rejoint la bande. On était heureux de vous accueillir. Guillaume, c'est vous qui regardez l'actualité internationale passer sous les radars.
Salut Fabienne, direction l'Indonésie pour une course de pirogue ancestrale à la sauce réseaux sociaux, un succès viral.
Et puis vieux de la vieille du lundi, c'est la BO du monde et vous, Cyril Sauvageau.
Je vous emmène au Groenland. Écoutez le son des glaciers en train de fondre. C'est un projet musical et militant d'un duo irlandais de musique électronique.
Et tout ça, c'est juste après un petit détour par le Burkina Faso de Victor Démé. Vous allez peut-être reconnaître cet air d'ailleurs. La chanson s'appelle John Mayer.
Kima sabunyuma dunya vekendi Love it, cause you are lonely now. New year
d'aimer Dionne Maya sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Hi, I am Heidi and I am a system engineering manager in the Northern Lights project.
Et pour commencer, Guillaume Audat, nous sommes en Norvège. Heidi a le sourire, elle est ingénieure, elle vient de réaliser une prouesse technique.
Oui, avec ses équipes, elle a réalisé la toute première injection de carbone dans les fonds sous-marins de la mer du Nord. Le principe, capter le gaz carbonique, l'emmagasiner dans d'immenses cuves avant de le plonger à 110 km des côtes et à 2600 mètres de profondeur. Visiblement, la Norvège possède une géologie adaptée à ce type de stockage où le dioxyde est emprisonné dans des cavités sous-marines avant de se dissoudre dans l'eau salée pour se transformer en roche. Tout ça est balbutiant. L'installation est capable de stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an, à peine 2% des émissions de l'industrie française. Mais c'est porteur d'espoir parce que ça permet de réduire l'empreinte d'industries difficiles à décarboner, par exemple les cimenteries. Le projet est financé à 80% par l'État norvégien, mais également par Equinor, Shell, le français Total. Là, il y a un enjeu d'image. En termes de réputation verte, ça permet aussi de prolonger l'usage du pétrole et donc de ne pas lever le pied, in fine, de transformer un coût environnemental en une source de bénéfice.
Maler Svenja Liebig, einst innerhalb der Neonazi-Szene, prominent als Sven Liebig.
Et nous voici en Allemagne, et vous nous parlez, Guillaume, d'un néo-nazi en transition de genre, récemment condamné, mais dont on ne sait pas très bien où l'emprisonner.
Elle s'appelle Marla Svenja, c'est comme ça qu'elle se présente lorsqu'elle apparaît à l'écran, la voix affublée d'un grand chapeau qui couvre sa perruque blonde, laquelle est assortie à sa moustache blonde. Elle apparaît avec un épais rouge à lèvres et une tenue léopard. Elle ne ressemble en rien à l'homme qu'elle était l'année dernière, un néo-nazi anti-immigration, transphobe, qui multipliait les provocations en tout genre et qui l'année dernière a été condamné pour avoir vendu des battes de baseball estampillées aide à l'expulsion. Verdict, 8 mois ferme, qu'elle, Marla, purgera en principe dans une prison pour femmes, puisque dorénavant c'est son sexe à l'état civil. Elle a profité d'une loi qui permet de changer de genre sans démarche administrative, sans opération ou sans avis médical. Mais les spéculations vont bon train. Qu'est-ce qui a pu pousser cette femme néo-nazie à profiter de cette législation, une démarche intime ? Peut-être. D'autres pensent qu'en réalité, elle chercherait à profiter de conditions de détention un peu plus souples. Autre scénario, tourner en ridicule cette loi allemande. La justice de son pays a 2 semaines pour déterminer, après examen psychologique, si elle doit être enfermée ou non dans une prison d'hommes.
Meet Dika, a.k.a. the Aura Farming Kid.
Et puis... il a 11 ans, c'est déjà une star dans son pays, l'Indonésie.
Voilà, et pas seulement dans le monde entier. Si vous avez TikTok, Instagram, ça fait déjà quelques semaines que vous avez vu ces vidéos absolument viralissimes sur les réseaux, partagées par le PSG ou même par le mari de Taylor Swift, un footballeur américain. Bah oui, on le connaît. Donc sur ces vidéos, on voit ce petit bonhomme en train de danser de façon extrêmement stylée à l'avant d'une pirogue. Il a baptisé sa danse l'Aura Farming. Au départ, c'est un rite traditionnel en Indonésie, une régate qu'on appelle le Paku Jalur, ou des pirogues géantes décorées avec à l'intérieur des dizaines de pagayeurs qui s'affrontent dans une ambiance festive depuis 3 siècles. À la proue de ces pirogues, vous avez un enfant qui danse pour motiver les pagayeurs, et c'est là qu'il intervient, ce petit Dika. Il a remporté non pas la course, mais les foules avec son style incroyable. Cette course, il a remis son pays au centre de la carte. Affluence record, 1,5 million de spectateurs, 4,5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur.
Allez, Guillaume Audat, merci beaucoup. À demain. L'homme qui écoute la musique à l'oreille de la planète, c'est Cyril Sauvageau.
France Inter, le 18-20.
Et la BO du Monde ce soir, Cyril, est au-delà du cercle polaire avec un projet étonnant, celui d'un duo de musique électronique parti enregistrer un album dans les étendues glacées du Groenland.
Oui, c'est là, au pied des glaciers de l'Arctique en train de fondre, que les deux DJ du groupe Bicep ont récolté la matière sonore pour composer cet album. Le crissement de la glace sur la banquise, le cliquetis d'une chaîne de chiens de traîneau, les onomatopées de chants traditionnels inuits, autant de sons captés sur le vif et ensuite montés, mixés, transformés en boîte à rythme, traités à travers des machines jusqu'à devenir méconnaissables. Avant de se lancer dans cette aventure hors norme, les deux Irlandais de Bicep, Andy Ferguson et Matt McBriar, se sont fait connaître en écumant les clubs et les festivals avec leur mélange euphorisant de house et de techno, notamment grâce à ce tube de 2017, Glue. C'est la rencontre avec une ONG écologiste, Earth Sonic, qui a donné vie au projet. À la clé, 2 ans de travail, plusieurs allers-retours au Groenland, des tournages vidéo avec un réalisateur pour aboutir à cette bande-son en 9 morceaux et le film qui l'accompagne, qui doit être bientôt projeté dans des salles de concert ou des festivals à travers le monde. Son titre, Takuk, un terme inuit qui signifie « regarde » ou plutôt « apprends à regarder ».
Cyril, enregistré dans le Grand Nord, la démarche est plutôt originale, mais elle n'est pas totalement inédite.
Mais oui, la région attire et fascine les musiciens. Et effectivement, cette bande-son venue du froid en rappelle d'autres. Souvenons-nous par exemple de l'Islandaise Björk, qui utilisait déjà des sons de la nature polaire dès l'an 2000 sur son album Vespertine. Et plus près de nous, il y a 10 années, c'est un musicien français, Molécule, qui se lance dans une aventure similaire. Romain Delahaye, de son vrai nom, va poser son studio sur la banquise. L'album, moins 22,7 degrés, c'est la température relevée au sommet d'un glacier. Et cet album témoigne du périple. Là aussi, comme chez Bicep, la démarche est militante, avec la même volonté de montrer comment, dans ces régions polaires, le changement climatique se voit et s'entend. L'idée aussi, c'est de laisser une trace, de documenter en quelque sorte un monde en voie de disparition. Ce qui distingue le nouveau projet donc des Irlandais de Bicep, c'est la place prépondérante laissée aux artistes inuits. Ce n'était pas forcément prémédité, mais au fil des rencontres et des enregistrements pendant ces 2 années, les deux DJ ont choisi de se mettre davantage en retrait, par respect et par admiration pour ce peuple en première ligne face au bouleversement du climat. Les voix de plusieurs chanteurs locaux émergent de ce magma sonore, comme celle du rappeur groenlandais Tarak, sur ce titre rappé dans sa langue natale, l'Inuktitut.
flippant, si je puis me permettre.
Un peu flippant,
oui, oui,
mais ça sonne bien.
On est d'accord. Oui, oui, on est d'accord. Mais enfin bon, Philippe, il dit que c'est bien.
Oui, c'est bien.
À lundi prochain.